France Culture.
Patrice Lecomte, bonsoir.
Bonsoir.
Heureux de vous retrouver dans cette quatrième partie de nos entretiens à voix nue, intitulée « Subtil dosage ». Je vous propose de nous écarter du fil chronologique des précédents épisodes pour prendre un peu de recul et se concentrer sur vos relations avec les acteurs, les actrices et votre manière de les diriger devant la caméra ou sur une scène de théâtre. En 30 films et 50 ans de carrière, vous avez fait tourner la fine fleur du cinéma français. La liste est longue, prendrait près de la moitié de cet épisode. Beaucoup de personnalités différentes, différentes générations, une grande variété de styles de jeux aussi. Cependant, certains noms reviennent souvent. Dans votre top 10, par exemple, on retrouve Jean Rochefort, que vous avez fait tourner 7 fois à égalité avec Michel Blanc. Vous me dites si je me trompe. Mais aussi Daniel Auteuil, Vanessa Paradis, Jean-Pierre Marielle, Philippe Noiret, etc. Alors un bon cinéaste, c'est aussi un bon directeur d'acteur. Il ne doit pas se laisser enfermer dans la technique, le cadre, les mouvements de caméra. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous essayez de faire ?
Oui. Ça, alors, évidemment, bien sûr. Mais je trouve, alors, sincèrement, que cette expression « directeur d'acteur » est une expression bien pompeuse. Et les gens, qu'ils soient metteurs en scène de cinéma ou de théâtre, qui s'annoncent, qui se prétendent, qui se glorifient d'être de grands directeurs d'acteurs, ils se prennent pas pour la moitié de l'épluchure et surtout, ils ont tout faux. Parce que on a l'impression à les entendre, et c'est vraiment pas comme ça que je travaille ou que j'aimerais travailler, on a l'impression à les entendre qu'ils sont marionnettistes et qui tirent les ficelles d'acteurs en leur disant « là, on fait ceci, on fait cela », comme si les acteurs étaient de la pâte à modeler. Et moi, j'ai toujours imaginé que l'essentiel de la direction d'acteur, c'était déjà de choisir ces acteurs-là. Et l'essentiel aussi de la direction d'acteur, c'est un peu comme dans la vie, c'est une question de confiance. C'est-à-dire que quand vous aimez les gens, pardon, j'ai l'impression d'être dans une église en train de faire un prêche, mais quand vous aimez les gens, ces gens-là vous donnent le meilleur, forcément, toujours. Ou alors c'est que c'est des enfoirés, mais faut pas les fréquenter. Et si les acteurs avec lesquels on travaille se rendent bien compte, il s'agit pas de leur lécher la bobe du matin au soir, ma chérie, t'es la plus belle, c'est pas ça, mais simplement qu'il y a un regard aimant, amoureux, gourmand aussi de leur travail. Alors en échange, ils vous donnent vraiment ce qu'il y a de meilleur. Moi, je me souviendrai toujours. Ça, c'est autre chose. C'est pas autre chose, mais ça résume un peu la situation. Jean-Pierre Marielle, un jour, on parlait ensemble sur un tournage entre deux plans. On parlait de la direction d'acteur, justement. Et pour lui, c'est une expression atterrante de bêtise, parce que non. Et il m'avait dit, je peux pas imiter Jean-Pierre Marielle, j'ai pas assez de coffre, mais enfin, en gros, ça donnait ça, c'est vous savez, Patrice. Pour moi, la direction d'acteur, c'est plus vite, moins vite, c'est tout. Et je trouvais que c'était vraiment intelligent et pertinent. C'était pas une manière de faire une pirouette pour évacuer la question. Mais c'est vrai qu'un acteur, qui est par définition une personne intelligente et sensible, si on lui dit c'était un petit peu trop rapide là, je vais vous faire la même chose en moins rapide, ou alors j'ai pris trop mon temps. Donc le fait qu'il dise pour moi la direction d'acteur, ça devrait juste être plus vite, moins vite, j'ai trouvé ça super.
Vous dites choisir, ça consiste aussi à choisir les acteurs, les actrices. Donc c'est une question de casting. Est-ce que cette étape très en amont du tournage est un plaisir pour vous ou plutôt une angoisse?
Personnage? Non, c'est certainement pas une angoisse. Non, c'est un plaisir. J'aime beaucoup les acteurs, surtout depuis que je cadre et que je les filme moi-même. Je les aime encore plus parce que j'ai l'impression d'être avec. Et alors les acteurs, c'est assez marrant. C'est très subjectif. Mais il faut penser au film qu'on va faire, quel est le personnage, comment est-ce qu'on le voit. Mais il peut y avoir des changements de casting au dernier moment, tout à fait inattendus.
Ou imposés par la production, peut-être.
J'ai des exemples assez singuliers. J'avais pensé à tel acteur, puis tout compte fait, c'est un autre qui l'a fait, qui n'a rien à voir avec le premier, physiquement ou même en termes de personnalité, et qui prend le personnage à bras-le-corps pour en faire encore autre chose. Quand je disais que... Pardon, c'est confus tout ce que je raconte, mais pas trop, j'espère. Ce que je disais de la subjectivité des acteurs, c'est qu'il y a des acteurs, ou des actrices, bien sûr, que j'aime beaucoup quand je les vois dans les films des autres, mais j'ai pas envie de filmer ces gens-là. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Il y a des acteurs que je trouve excellents dans d'autres films que les miens, mais je n'ai pas pour autant envie de faire du cinéma avec eux. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a une petite alchimie étrange qui fait que est-ce qu'on a envie de déjeuner à la cantine tous les jours avec ce garçon? Est-ce que on a, je sais pas,
c'est subtil.
C'est assez compliqué.
Sur le choix des acteurs, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Un peu plus que le fait de se dire c'est agréable de manger avec eux à la cantine. Oui, je peux vous en dire un peu plus, mais pas beaucoup plus, parce que c'est vrai que si je vois une jeune actrice dans un, deux ou trois films et que je la trouve formidable et que je me dis j'aimerais bien un jour avoir l'occasion de lui proposer à elle un film, un personnage, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de la filmer elle, je sais pas. Il y a sûrement quelque chose d'un peu sentimental, mais d'une manière très, très périphérique. Mais c'est cette envie de travailler avec un tel ou une telle est une envie très subjective. Il n'y a pas de raison cartésienne, quoi. C'est vraiment au sentir ou au feeling, ça dépend dans quel pays on est. Alors, un dernier truc à préciser, parce que je me suis rendu compte que les gens faisaient souvent une erreur quand on voit au générique d'un film casting, deux points, Geneviève, je sais pas quoi. Les gens ont souvent, parfois l'impression que c'est cette personne, c'est souvent des femmes, mais pas que d'ailleurs, c'est souvent cette personne, ce casting director, qui choisit tous les acteurs d'un film. Bien sûr que non. Évidemment pas. Moi, quand je prépare un film, je commence à imaginer des acteurs. Je les contacte ou pas, et puis j'adore faire des rencontres, donc je me fais aider par un casting ou une casting director qui ne choisit pas les acteurs à ma place, bien sûr que non, jamais ils font ça, mais qui me présente des acteurs, et puis on en voit un, deux, trois, elle a vu une fille formidable au concours du conservatoire, elle a vu, bon, et donc j'adore faire des rencontres, parce que si j'ai pas de casting director, alors je fais comment? Je tourne uniquement avec ceux que j'ai déjà pratiqués. Ouais, enfin c'est un peu en vase clos, quoi. Ou alors je repère tel ou tel acteur ou actrice dans un film que je vais voir et je me dis oh tiens elle est vraiment intéressante. Alors, je pense à elle et ça. Mais également avec les casting directeurs qui vous font faire des rencontres souvent formidables.
Mais justement, j'ai remarqué dans pas mal de vos films, vous faites un subtil dosage entre des acteurs, des actrices que vous connaissez très bien, qui sont rassurants, et d'autres que vous testez, expérimentez, qui apporteraient peut-être un sang neuf. Est-ce que ça, c'est, vous faites ce genre d'équilibre ou pas?
Oui, c'est difficile parce que ce qui est difficile quand on travaille avec un acteur ou une actrice avec lequel on a déjà travaillé, ce qui est difficile, c'est d'arriver à se séduire. Enfin, c'est pas difficile, mais il faut faire attention à continuer à se séduire, comme si c'était notre premier film. Et si on prend un exemple plus limité que Rochefort ou Michel Blanc, avec lesquels j'ai fait beaucoup, beaucoup de films, mais Daniel Auteuil, j'ai fait trois films avec lui. Le premier, c'était La fille sur le pont, le deuxième c'est La veuve de Saint-Pierre, le troisième c'était Mon meilleur ami. Ils n'ont pas été faits côte à côte, mais ces trois films. Et ces trois films-là, ils étaient amusants à faire entre nous, parce qu'on fréquentait des sentiers sur lesquels on n'avait pas été ensemble. Et c'est vrai que le capitaine de La veuve de Saint-Pierre n'a pas grand-chose à voir avec le lanceur de couteau de La fille sur le pont. Et puis ce personnage très solitaire qui est très étonné de ne pas avoir d'amis, mais c'est bien fait pour lui parce qu'il se comporte mal. Dans Mon meilleur ami, c'est un personnage très quotidien, très très d'aujourd'hui, très ancré dans la vraie vie, mais il n'a rien à voir avec ce qu'on avait fait avant.
Mais c'est étonnant que vous parliez de ça, parce que finalement Daniel Auteuil, je crois qu'il n'était pas prévu pour La fille du pont. C'était Jean-Pierre Marielle. Pouvez-nous raconter cette petite anecdote?
Oui, c'est la fille sur le pont.
Sur le pont.
Ah bah oui, attendez. Si on commence à écorcher les titres, alors là, on c'est la porte ouverte à tous les abus. Oui, alors effectivement, avec Serge Friedman, on avait écrit La fille sur le pont pour Vanessa Paradis et pour Jean-Pierre Marielle, parce qu'on les aime passionnément tous les deux. Et Vanessa Paradis, on avait une jolie photo d'elle en noir et blanc qu'on avait punaisée devant la table sur laquelle on travaillait, et quand on n'avait plus d'idées, il suffisait de relever le visage vers son visage et d'un seul coup, c'est une jeune femme, enfin je l'adore, elle est extrêmement inspirante. Et Jean-Pierre Marielle, on trouvait ça Enfin, on ne s'est pas posé d'autres questions, quoi. C'était Jean-Pierre Marielle et elle, c'était parfait. Jean-Pierre Marielle lit le scénario. Il me dit, Patrice, j'ai lu le scénario au téléphone. J'ai adoré, mais je ne le ferai pas. Venez me voir. Donc je suis allé aussitôt. C'était un peu la mauvaise saison. Il faisait déjà un peu sombre. À Boulogne, un rez-de-chaussée, il n'avait pas allumé la lumière, il y avait une ambiance, non pas mortuaire, bien sûr que non, mais il y avait une ambiance un peu triste, et pour se résumer, il m'a dit, voilà, je ne ferai pas ce film, alors que c'est un film qui va être formidable, je vous fais confiance, mais je ne veux pas être un vieux de plus dans la carrière de Vanessa. C'est-à-dire qu'il avait cette vision très lucide du fait que c'était pas bien pour le film que lui, homme âgé, soit... Et il avait ajouté d'ailleurs, avant que je ne franchisse le pas de porte, il m'avait dit, et si je peux me permettre, Patrice, ne me remplacez pas par un autre vieux. Il voulait dire par là qu'il fallait pas que, parce que Jean-Pierre Marielle faisait pas le film, que j'aille proposer à Michel Serrault ou je sais pas quoi. Et ça m'a trotté en tête, et la nuit, qui porte parfois conseil, a été bénéfique, parce que je me suis dit, oui, dans le fond, j'ai prévenu Serge Friedman aussitôt, et on s'est dit tous les deux, il a raison. Et j'ai eu, la suite est vraiment formidable, parce que j'ai eu l'envie, l'idée immédiatement de proposer le personnage, de proposer le film à Daniel Auteuil. On s'était tourné un petit peu autour, il y avait eu des trucs qui auraient peut-être pu se faire, qui s'étaient pas faits, enfin bref. Donc on n'avait pas fait de cinéma ensemble. Alors je lui explique la situation, il faut toujours dire la vérité. Il me dit, bah écoute, très bien, moi à telle heure, je suis à la gare de Lyon, voiture 12, je prends le train pour Avignon, on se rejoint là, et alors moi j'ai couru comme un dératé jusqu'à la gare de Lyon devant la voiture 12, je lui ai filé le scénario. Il a pris le train s'est éloigné. Et 2 heures après, il me téléphonait en me disant, devine où je suis. Je dis, j'en sais rien, Avignon. Oui, je suis sur le quai de la gare. On commence à tourner con. C'était parfait.
Avec vous, on a l'impression, Patrice Lecomte, qu'on est assez loin de l'image du réalisateur tout-puissant, froid, distant sur un plateau. Comment faites-vous pour avoir de l'autorité en douceur? On avait vu dans le premier épisode que votre mère était l'une des pionnières de l'accouchement sans douleur. On a dû déjà vous faire la comparaison. Est-ce que vous appliquez cette méthode?
C'est-à-dire que j'ai un trait de caractère qui est que je déteste les conflits. Mais dans la vie aussi. C'est-à-dire que il y a des gens qui... Alors, arrêtons avec la vie, parlons de cinéma. Les conflits, c'est quelque chose qui, moi, ça me ratatine, ça me met en 1000 morceaux, quoi. Et j'ai connu ça d'une manière très violente sur le tout premier film, OK, avec Jean Rochefort. Et je me suis bien juré de plus jamais connaître ça, et plus jamais j'ai connu ça. Il y a eu des petites prises de bec avec...
Des fortes personnalités, Fabrice Luchini.
Émir Kusturica, qui était dans la Veuve de Saint-Pierre, il y a eu une journée où il était très très préoccupé parce qu'il se passait des choses graves dans son pays, il était au téléphone, il était inquiet pour sa famille, d'un seul coup tout ce que j'avais prévu lui convenait pas. Il a été, ce jour-là, il a été odieux, et moi j'étais ratatiné, je perds tous mes moyens. Quand on s'engueule, quoi. Non pas quand on m'engueule, mais quand on s'engueule. Et donc le fait de détester et de fuir les conflits fait en sorte que les tournages que je fais se passent tout le temps dans une ambiance agréable, mais parce que je suis très malin, en fait, et j'obtiens toujours ce que je veux, mais jamais d'une manière frontale, parce que ça ne me convient pas. Donc je suis rusé, je fais 3 fois le tour avant de... Enfin, le tout, il n'y a que le résultat qui compte. Et c'est vrai que on fait un métier absolument formidable. C'est pas commode tous les jours, mais c'est quand même mieux que d'être caissière au Franprix. Enfin, c'est plus rigolo, quoi. Et je me dis que les gens qui font le film avec moi, j'aime l'idée qu'ils se lèvent tous les matins, comme moi, très tôt, comme moi, et qu'ils se frottent les mains en disant « Ah, on va aller continuer le film ». Parce que c'est un métier, c'est jouissif, quoi, de se retrouver une journée de tournage, d'avancer plan par plan, la lumière, les acteurs, la magie. Enfin, c'est merveilleux, quoi. Donc, on fait un métier merveilleux.
Et en 98, vous avez quand même eu sur votre plateau Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, hein, oui. Pour Une chance sur deux. 26 ans après Borsalino, c'était l'argument marketing du producteur, Christian Fechner, dont on avait parlé dans un précédent numéro. Comment ça s'est passé? Comment on fait travailler deux monstres sacrés?
Me disais tout le temps, je suis en train de faire un film avec Pierrot le Fou et le Guépard. C'était spectaculaire, mais moi j'avais beaucoup d'admiration pour ces deux-là. Mais alors là, franchement, même dans mes rêves les plus fous, comme on dit souvent, jamais je ne pouvais imaginer une seconde faire un jour un film avec l'un ou avec l'autre, et à plus forte raison avec les deux. Et c'est encore un coup, mais je dis ça en toute amitié, un coup de Christian Fechner. « Allô Patrice, c'est Christian, voilà, j'ai un truc à vous proposer. » Vous pouvez faire un saut. Alors je déboule aussitôt, évidemment, parce que je me dis « qu'est-ce qu'il a derrière la tête ?» Et il me dit « voilà, je voudrais faire un film avec Delon et Belmondo ». Il n'y avait pas de scénario, il n'y avait rien, on ne savait rien. Il voulait simplement les réunir à nouveau. Et il me dit « mais c'est vrai qu'on s'entendait très bien avec Fechner, il avait confiance en moi, moi je suis un mec équilibré. Enfin, je pense être ne pas être inquiétant pour un producteur, et peut-être même rassurant. » Et il me dit donc « Delon Belmondo, bon, très bien, super. » Et là, je me dis « Delon Belmondo, j'ai peur qu'on fasse un film un peu avec des gens déjà dépassés, quoi. » Enfin. Et j'ai dit à Christian Fechner, ce serait bien de leur ajouter un élément acidulé. Et j'ai pensé tout de suite à Vanessa Paradis, avec qui on avait déjà le projet de la fille sur le pont qui allait suivre. Et Vanessa, elle a été un déclencheur de passion, quoi. Vraiment.
Rayon soleil, c'est ça.
Oui, et puis alors évidemment, si il y avait un côté jus de citron, quoi. Ils pouvaient pas ronronner devant elle du tout. Ils étaient obligés d'être. Je pense qu'elle a été utile. Enfin, en plus, moi, je me suis régalé, évidemment. Bon, c'était un gros machin, c'est une grosse machine. C'était un film très cher avec des effets spéciaux, des cascades, des trucs, des machins. J'ai adoré faire ça, et j'avais l'impression d'être devant un train électrique géant, quoi. C'est-à-dire que et puis le film a pas été un succès formidable, quoi. Ça, c'est Christian Fechner l'a pris comme une espèce de gifle personnelle. Lui, il a très mal vécu ça. Vous savez, les jours de sortie de film, il y a des soirées prises de chiffres. C'est-à-dire on se réunit chez le producteur ou dans un café privatisé, je sais pas quoi, tout le monde est au téléphone, on a fait combien, on pas TV Play, enfin, etc. Et ces soirées chiffres sont extrêmement agréables quand le film marche bien. Et moi, j'ai vécu chez Fechner des soirées chiffres où le cristal Roederer coulait à flot parce que les chiffres étaient mirobolants, mais ce soir-là, non. Et d'ailleurs, Christian Fechner avait annulé toute soirée, toute festivité, tellement il était pas honteux, mais il était infiniment triste, parce qu'il aimait beaucoup le film. C'était exactement ce qu'on s'était proposé de faire. Et puis, ben voilà. En fait, il y a un truc qui est curieux. On fait jamais ça en France. Je sais pas si on a tort ou raison, peu importe. Mais on aurait été dans les queues de cinéma, ou si on avait fait un sondage auprès des jeunes gens, des jeunes spectateurs de... Quand on sait que c'est les jeunes quand même qui sont l'essentiel du public, des spectateurs. Si on avait été leur demander, on a un projet, un film avec Delon et Belmondo, est-ce que un film d'action, d'aventure, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense que les résultats de ce sondage n'auraient pas été terribles, auraient été décevants et qu'on n'aurait peut-être pas fait le film. Moi, je regrette pas. J'ai adoré faire ce film-là. Et j'ai adoré travailler avec ces deux-là, quand même, parce que j'en suis toujours parvenu, moi, sans blague.
Et Alain Delon, je crois que c'est aussi quelqu'un de particulier pour vous, parce que vous avez écrit une encyclopédie sur lui.
Ah oui, on m'a proposé ça, oui. Hein.
Et je crois qu'il vous appelait au téléphone quand étiez déçu par les résultats de vos films.
Oui, c'est un homme... Moi, je me suis très bien entendu avec lui. Avec Belmondo aussi, mais Belmondo, il a fait profession d'être sympathique avec tout le monde. Enfin, il a envie que le monde entier le trouve sympathique, et il est extrêmement sympathique, vraiment. Jamais sombre. Delon est évidemment beaucoup plus sombre, mais c'est quelqu'un de plus profond, quoi. Chaque fois que depuis ce film, j'ai eu l'occasion de croiser Belmondo, il est extrêmement chaleureux. C'est pas la question. Mais Delon, il y a quelque chose de plus dans son comportement, une fidélité. Et puis un jour, on était chez Laurent Delahousse, lui et moi, parce qu'on devait parler de ce bouquin que j'avais fait avec... Enfin, c'est pas une encyclopédie Alain Delon, ça s'appelle comme ça, mais c'est un peu ronflant ça. Mais enfin, un éditeur avait réuni...
C'est 80 tout, photos, tout, en gros.
80 hein, ou 100 ça, photos assez formidables, assez réussies d'Alain Delon sur les films ou dans la vie. Enfin bref, et la proposition c'était, est-ce que vous voulez bien mettre un commentaire, enfin... Moi, j'avais fait donc les commentaires et Delon avait été absolument enthousiasmé par ce bouquin. Donc, on était invités chez Laurent Delahousse, lui et moi, pour parler. Et c'est ce soir-là que Delahousse lui dit « Vous avez des projets, Alain ?» Et il dit « Oui, j'ai un projet. » « Oui, j'ai un projet, c'est de faire un dernier film avec Patrice. » Et il me dit ça en mettant la main sur l'épaule et moi, je l'apprends. Il m'a jamais parlé de ça, de son envie de faire encore un... Et dans les couloirs, après, il me serrait très fort. Et il me disait, tu sais, j'ai pas dit ça pour frimer. Hein, je suis sérieux. Écris-moi mon dernier film. Donc, on lui a écrit son dernier film et on l'a pas fait.
Vous-même, en tant que spectateur, quand vous allez dans une salle de cinéma, est-ce que vous êtes plutôt exigeant? Est-ce que votre côté professionnel du 7e art prend le dessus ou vous laissez aller aux sentiments?
Non,
aux émotions.
Quand le film est bon, quand le film... me prend par la main et m'entraîne, je réfléchis à rien d'autre qu'à ce qu'on me propose. Parfois, il m'est arrivé de voir un film, d'être enthousiasmé par ce film, mais de ne me poser aucune question particulière. Et donc, j'y retourne pour regarder un peu comment c'est fait. J'avais été, c'est un exemple, mais il y en a d'autres évidemment, mais j'avais été époustouflé par 1917. Et je me dis, mais comment ils ont fait ça? Non, c'est invraisemblable quand même. Donc, je suis retourné la même semaine pour voir. J'ai toujours pas compris. Non, mais ce plan unique, pratiquement unique, inouï. Je sais pas comment on fait des choses pareilles. Moi, c'est très plaisant de voir des films quand on fait partie de cette profession, quand on est du bâtiment, comme on dit. C'est formidable de voir des films. Dont on comprend pas comment c'est fait, quoi, qu'on n'arrive pas à décortiquer. Alors les mauvais films,
on voit pas les coutures,
quoi. Non, ça c'est facile.
Si on vous connaît d'abord comme cinéaste, Patrice Lecomte, le théâtre compte beaucoup aussi dans votre vie. Déjà, je crois qu'au lycée, vous découvriez les grands classiques. Vos parents vous emmenaient souvent au spectacle. Oh, je crois qu'il y avait des opérettes, du cirque, de la magie. Et une fois monté à Paris, on en a brièvement parlé lors du premier épisode de nos entretiens. Vous vouliez du café-théâtre, et je crois aussi au Théâtre Antoine, des grands textes, hein, du Pinter, du Rennemath, etc. Est-ce que tout ça vous a formé à une certaine culture théâtrale?
Tout ça nous remplit, bien sûr, de choses et autres. J'ai été nourri avec des opérettes telles que Toison d'or ou Méditerranée, aussi bien que de spectacles de music hall, ou effectivement d'aller au Théâtre Antoine pour voir une galerie d'acteurs, Delphine Seyrig, Samy Frey, Michel Lonsdal, Bernard Fresson. C'était étourdissant, quoi, le casting du Théâtre Antoine. Donc je me suis nourri de plein de trucs. Moi, par principe, et j'allais dire depuis toujours, j'ai jamais été sectaire. C'est-à-dire que tout me va, quoi. Enfin, et à l'époque où je suis monté à Paris, je suis allé voir au Théâtre Antoine des choses où j'allais voir le spectacle de Bob Wilson parce que ça durait 8 heures, Le regard du sourd, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'était vraiment formidable, mais ça m'empêchait pas d'aller voir des pièces de boulevard. J'ai eu la chance, en fonction de mon grand âge, de voir Poiret et Serrault dans La cage aux folles. Mais c'est une chance parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de captation, quoi. Donc, les gens qui ne l'ont pas vu ne le verront jamais.
Et en 91, vous signez votre première mise en scène théâtrale. Je crois que c'est à l'initiative de l'acteur Jean-Claude Dreyfus, c'est ça? C'était Ornifle.
Oui, c'est une pièce de Jean Anouilh qui s'appelle Ornifle ou Le courant d'air. Déjà, moi, j'adorais ce titre. Il me dit, écoute, voilà, Nicole Anouilh, la veuve de Jean Anouilh aimerait monter cette pièce et elle, c'est la gardienne du temple. Une fois que le patron est plus là, c'est quand même souvent la veuve qui dit oui et qui dit non. Et elle voulait absolument monter Ornifle. Elle l'avait proposé à Jean-Claude Dreyfus, et moi je connaissais Jean-Claude Dreyfus, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est là qu'il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire du théâtre, de mettre en scène pour le théâtre? Et moi, encore une fois, comme tout m'amuse et tout m'intéresse, surtout les trucs que je suis pas censé savoir faire, j'ai dit oui, c'est super. Et ça m'a plu parce que dans cette pièce, il y avait un certain nombre de personnages. Et pour une première mise en scène, j'aurais peut-être été un tout petit peu embarrassé de n'avoir que deux ou trois personnages à mettre en scène. C'était bien, parce qu'il y avait du monde, et j'ai adoré faire ça, j'ai adoré.
Et puis vous avez adapté votre film « Confidences trop intimes », je crois que c'était en 2007. Est-ce qu'on peut parler des différences entre la mise en scène de théâtre et la mise en scène de cinéma? Est-ce qu'il y a des vraies différences?
Oui, il y a des différences dans la manière de travailler, mais par rapport aux acteurs, non, il n'y a pas de différence de les cadrer ou de les regarder jouer, c'est assez. Mais il y a un truc qui est quand même très, très particulier, c'est qu'au cinéma, quand on avance et qu'on passe au plan suivant, c'est qu'on laisse derrière soi des choses abouties, accomplies. Ce sera comme ça dans la salle de cinéma 3 mois plus tard. Alors qu'au théâtre, mais c'est ce qui fait le prix du théâtre, le théâtre a quelque chose d'éphémère, rien n'est gravé dans le marbre, et il peut y avoir une répétition formidable, une représentation étourdissante de talent, et que le lendemain soir, ce soit...
Baisse d'énergie.
Pas bien, quoi. Enfin, non pas nul, mais beaucoup moins bien, quoi. Et on se dit, pourquoi c'était pas comme hier soir? Donc j'ai toujours été un petit peu troublé de l'incertitude du théâtre. Moi, au moins, quand un film est projeté, c'est le même qu'au début. Ça ne bouge pas. Et au théâtre, alors il y a des acteurs qui sont de vrais Stradivarius et qui, en donnant l'impression de jouer pour la première fois de leur vie, arrivent à être exactement tel qu'on l'a prévu. Puis il y en a d'autres qui sont plus fantasques.
Je crois que vous parlez de lac chinoise, comme si au théâtre, la mise en scène, on rajoute des petites couches successives jusqu'à que le brillant.
C'est vrai, on est d'abord à la table, on fait des croquis un peu, et puis on avance, et puis on se retrouve sur le plateau avec des accessoires provisoires, et puis petit à petit on trouve les places, et puis on trouve l'humeur, on trouve le rythme surtout, et petit à petit, oui, ça avance, et puis un beau jour, on joue.
Il me semble qu'on vous a proposé de faire un opéra, c'est vrai ça? Et vous n'avez pas forcément accepté.
Il y a eu des idées. Moi, je rêvais depuis longtemps de tourner une comédie musicale au cinéma, parce que j'adore la musique, je chante la danse, je voudrais être réincarné en cinéaste à Bollywood, et on m'a proposé, oui, de mettre en scène un opéra, Bien que je sois curieux de nature, j'ai dit non merci, parce que je crois que c'est très compliqué, que les choses vous échappent beaucoup, que les divas, elles arrivent la veille, elles repartent le lendemain, enfin bon, que si vous leur dites, vous éloignez là-bas sur le petit pont, on dit non, moi je vais le faire en étant debout, devant, de face. Enfin bon, on m'a raconté des trucs qui m'ont pas donné envie.
Très bien. Et Patrice Lecomte, merci. Demain, dans notre dernier entretien, nous verrons comment votre talent de raconteur d'histoire s'exprime de multiples façons. Bonsoir.
À demain.
C'était À Voix Nue, réalisation Laurent Pauleré, prise de son Florent Layani, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'entretiens proposée par Pierre Lorimi, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.